Blenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Alors à lundi, 7h-9h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix. Car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300, 400 grammes. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
23h au carillon d'Europe 1, on retrouve Maëlle Laurent pour le Flash Info. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous. Nouvelle salve de missiles tirés ce soir depuis l'Iran en direction d'Israël en représailles à l'offensive menée par l'État hébreu. De nouveaux immeubles d'habitation viennent d'être touchés en Israël. Pendant une heure, la population a été appelée à se confiner dans des abris. Les Israéliens viennent d'être autorisés à en sortir. L'armée israélienne qui tente actuellement d'intercepter ces nouveaux missiles iraniens tout en menant de nouvelles frappes, notamment sur la région de Téhéran. Plus tôt dans la journée, Israël avait attaqué une installation souterraine de lancement de missiles située dans l'ouest du pays. L'État hébreu qui considère, après deux jours depuis le début de son offensive, avoir déjà réussi à porter un véritable coup au programme nucléaire iranien. Et sur cette question du nucléaire, l'Iran accuse ce soir Israël d'avoir sapé les pourparlers avec les États-Unis. Invité par Emmanuel Macron à revenir rapidement à la table des négociations sur ce programme, alors que des pourparlers devaient avoir lieu demain à Oman, le président iranien a opposé une fin de non-recevoir. D'une façon générale, l'Iran annonce qu'elle cesse de coopérer comme auparavant avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran, qui fustige le silence de l'institution après ses frappes israéliennes dirigées contre des sites nucléaires en Iran. Retour en France. Dans le Nord, une personne a été tuée ce matin dans un camp de migrants situé près de Dunkerque. 5 autres personnes ont été blessées, dont un enfant. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Et par ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'une centaine de migrants avaient été secourus dans la Manche entre jeudi et vendredi. Ils tentaient de gagner l'Angleterre à bord d'embarcations clandestines. Aux États-Unis, à présent, une élue locale de l'État du Minnesota et son mari tués aujourd'hui. Un autre couple a été blessé. Le suspect est en fuite, activement recherché. Le président Donald Trump a rapidement dénoncé une terrible attaque. Le gouverneur de l'État parle, lui, d'un acte de violence politique. Des actes de violence qui interviennent alors qu'à Los Angeles, les marines dépêchées par Donald Trump sont à l'œuvre. Réponse à la nouvelle journée de mobilisation pour protester contre la politique migratoire du président américain. À noter enfin qu'à Washington, une parade a lieu ce soir à l'occasion du 250e anniversaire de l'armée américaine. En Ukraine, à présent, nouvel échange de prisonniers qui a eu lieu aujourd'hui entre Kiev et Moscou, la quatrième en une semaine, conformément aux accords qui ont été conclus entre les deux parties au début du mois à Istanbul. Sur le front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que l'avancée des troupes russes a été arrêtée aujourd'hui à Soumy, dans le nord-est du pays. Un mot de sport pour terminer avec ces deux Français sur le toit de l'Europe en escrime. Eva Lacheret qui remporte le titre européen en fleuret, le premier de sa carrière chez les seniors. Et puis Rémi Garrigue, sacré lui, champion en sabre. 23h03 sur Europe 1, la suite de votre libre antenne avec vous Valérie Darmon.
Merci Maëlle Laurent, on se retrouve à minuit pour de nouvelles informations. À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne.
Valérie Darmon.
partager votre temps avec nous ce soir sur Europe 1 dans la Libre Antenne. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21, à nous laisser des SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit, ou encore à nous écrire à libreantenne@europe1.fr, et surtout laissez-nous votre numéro de téléphone pour que Amandine et Nicolas vous rappellent si vous le souhaitez. Bonsoir Marianne.
Oui, bonsoir Valérie.
Merci d'être avec
nous. Je vous remercie de me recevoir à l'antenne.
Avec plaisir.
Voilà, pour parler de ma maman, oui. Qui a été placée, on est à 7 enfants, contre son gré, par mes frères et sœurs. Elle est là-bas dans cet EHPAD depuis à août 2023.
Oui.
J'avais fait le nécessaire, que je vous explique. Elle est rentrée en traumatologie puisqu'elle avait tombé, donc elle s'est cassé le col de l'ufère. Excusez-moi.
Quel âge elle a, votre maman ?
91 ans.
91 ans. Donc elle s'est cassé le col du fémur il y a 2 ans, à peu près.
Suite à ça, elle a rentré en traumatologie, ils l'ont opérée. Après, elle a été en gériatrie, mais comme elle ne pouvait plus marcher, moi, je m'étais proposée de le garder. Mes frères et sœurs n'ont pas voulu, donc elle a été placée en EHPAD.
D'accord, mais pourquoi ils ont refusé, vos frères et sœurs ? C'est quand même une très très grande chance dans une fratrie d'avoir un enfant qui reste aux côtés de son parent âgé et qui en plus en perte de mobilité.
Parce que, soi-disant, que maman, elle était plus sécurisée dans un établissement comme ça. Voilà. Voilà. Donc,
elle était en fauteuil, votre maman, quand elle est sortie ?
Non. Chez elle, elle marchait. Elle avait encore toute sa tête. Elle perdait un petit peu de mémoire, comme beaucoup de monde, voilà.
Oui, bien sûr. Et quand elle est sortie, quand le col du fémur s'est ressoudé, quand tout est rentré dans l'ordre, elle a continué d'être autonome ?
Justement, elle a été en traumatologie, oui. Peut-être trois semaines. Après, elle a été en gériatrie, même pas une semaine. Elle était partie en gériatrie pour faire de la kiné, mais ils n'ont jamais fait la kiné là-bas. Voilà. Donc, automatiquement, elle ne pouvait pas marcher.
Donc elle n'a pas pu faire sa rééducation. Et aujourd'hui, elle est en fauteuil ou elle est...
Fauteuil et couché, parce que où elle est à cet EHPAD-là, elle n'a jamais eu de rééducation.
D'accord.
Jamais.
Donc revenons à vos frères et sœurs. Les sept étaient d'accord pour la placer en EHPAD ?
Plus ou moins, il y avait quand même mon dernier petit frère qui me disait, c'est vrai que maman serait quand même mieux avec toi, ceci, cela, mais en fin de compte, il ne voulait pas être contre ses frères et sœurs, voilà. Et j'avais aussi ma première sœur qui me disait, quand je la voyais seule, elle me disait, ah oui, c'est vrai Marianne, t'as raison, tu sais t'occuper de maman comme ça et ceci, cela. Et quand j'avais eu plusieurs réunions avec les frères et sœurs, et quand on se retrouvait avec les frères et sœurs, elle changeait de camp, en fin de compte, voilà.
Et votre domicile était adapté pour recevoir votre maman ? C'est-à-dire, elle aurait pu être au rez-de-chaussée, où il n'y a pas d'étage, des choses comme ça ?
Ma maman, elle avait une location, et c'était une maison qui avait 2 chambres, un petit jardin et tout. Donc déjà, j'y allais tous les 15 jours chez ma maman. Comme je n'ai pas d'attache personnellement, donc j'allais déjà la rendre visite tous les 15 jours, et je restais quelques jours avec elle, voilà. Et je revenais chez moi, voilà. Donc elle pouvait déjà m'accueillir là-bas, elle pouvait m'accueillir chez elle, voilà.
Oui. Et il n'y avait pas d'étage ?
Non, il n'y avait pas d'étage. C'était une petite maison qu'elle avait en location, voilà.
De plein pied. Vous avez quel âge, Marianne ?
Je suis née en 55, je n'ai pas encore 70 ans, 69 ans.
D'accord, très bien.
Il y a ce moment. Oui.
Alors, ensuite, ça s'est passé comment ? Donc, vos frères et sœurs ont dit, on veut la placer en EHPAD parce qu'on est plus sécurisé.
Oui. Donc, comme ma maman, elle avait quand même toute sa tête, j'allais la voir tous les jours au soir. Et puis, elle me disait toujours comme ça, quand est-ce que je vais rentrer à la maison. Je dis, il faut que tu te fasses soigner un petit peu, parce que puis, fur et à mesure qu'elle pleurait, je lui disais toujours comme ça, tu sais, c'est pas moi qui t'ai mis ici, hein, c'est tel et tel, c'est Marie, c'est Jean Bruno, c'est Jean Armel, c'est Graviella, enfin c'est qui, enfin je dis des prénoms aléatoires, hein. Je disais les noms de mes frères et sœurs. Alors comment donc, et je lui disais même, elle a fait peur, ma maman elle avait peur parce que chez elle elle dormait avec une petite loupiote, et pour que je puisse m'en aller de l'EHPAD, je lui disais, écoute, je dors à côté, je reviens. Elle me dit, oui, tu reviens. Puis le lendemain matin, elle me dit, quand je revenais le soir, elle me disait, ben, t'étais pas là le matin, je t'ai pas vu. J'étais obligée de mentir. Je disais, ben si, je suis venue te réveiller, mais tu dormais encore. Vous voyez, j'étais obligée d'avoir
de tricher un petit peu pour qu'elle puisse s'adapter. Oui.
Oui, et entre-temps, oui, forcément, j'ai vu le médecin, de l'EHPAD. Oui, elle m'a même pas reçu deux minutes. Je lui ai dit, maman, elle n'est pas bien ici. Elle fait le syndrome de glissement. Elle me dit comme ça, ça n'existe pas. Elle me dit, puis vous m'avez pris rendez-vous rien que pour me dire ça. Donc, comme ma fille, elle est dans le médical qu'elle habite à plusieurs kilomètres de chez moi, puisque moi, j'habite au nord, dans le département 80, les Hauts-de-France, et ma fille, elle habite dans le Midi. Donc, ma fille, elle était venue exprès, elle a fait faire, en fin de compte, elle habite 1500 kilomètres exprès, en aller-retour, parce que j'avais pris rendez-vous.
Oui,
on lui a mis un lapin, forcément. Et puis après, cette médecin-là est partie.
Elle est un peu particulière, cette médecin, pour dire que le syndrome de glissement n'existe pas chez les personnes âgées. Bien évidemment qu'il existe, quand on ne marche pas suffisamment, quand on se laisse un petit peu aller, quand on n'est pas stimulé.
Oui, oui. Oui. Et puis, j'ai fait aussi des lettres à la CAD de santé. J'ai fait 3 lettres parce que plus moyen de recevoir ma sœur. Parce que quand je voyais ma sœur à part, elle allait se plaindre à mes frères que je le harcelais avec mes lettres, ou je le harcelais avec mes paroles, voilà. Donc, dernièrement, la 3e lettre que j'ai envoyée à ma sœur, ça fait peut-être un mois, je lui ai envoyé les photos de maman subit, pas de réponse. J'ai envoyé aussi 3 lettres aussi à la CAD de santé. J'ai envoyé des lettres au directeur. J'ai déposé un PV de renseignement au procureur. J'ai envoyé 2 lettres au procureur. J'ai saisi l'ARS. Oui. Et les dernières lettres, j'ai envoyé les photos de ce qui s'y passe.
Alors, qu'est-ce qui s'y passe, Marianne?
Oui, voilà. Donc, l'hygiène n'y est pas. Bon, déjà, ses repas est pris avec sur une petite table quand elle le prend dans la chambre, et les pieds de table sont rouillés, archi-rouillés, chez les photos, vidéos, tout. En dessous de la table, il reste encore du manger. Les verres ne sont pas changés chaque jour, le bro non plus. Et plusieurs fois, parce que je n'avais parlé aussi à la CAD de santé, elle ne m'a pas cru. Une fois, j'arrive comme ça à 17h, je vois que ma maman n'a fait que de l'eau tout seul dans le bro. Le bro, tout ça, c'était un reste de soupe qui devait coller autour. Je vais dans son bureau, je lui fais voir. Elle me dit, là, je le vois, j'y crois, voilà. Le ménage n'est pas fait. Qu'est-ce que je peux encore dire aussi? Bon, je me suis aperçue aussi. Oui, question de nourriture aussi. Elle a du mal à avoir un petit gâteau. Ce qu'on lui donne à manger, mais enfin, je rouspète parce que ce qu'on lui donne à manger quand les. Puisque certaines personnes sont très, très gentilles.
Aides-soignantes.
Une gentillesse incroyable. Si tout le monde serait comme ça, je n'irais pas tous les jours la voir, ma maman. Mais sinon, quand c'est certaines personnes, c'est une soupe aux champignons avec un yaourt nature et une compote. Donc,
les repas ne sont pas préparés sur place.
Non. Et tout le monde n'a pas le même repas. Et puis une fois, je fais comme ça, c'était à 3 filles en blanc, les blouses blanches. Je fais comme ça une dame en blouse blanche. Je dis, est-ce que ma maman, elle peut avoir un peu de sucre dans le yaourt nature, puisque elle me donne le sucre. Elle parle aux autres personnes en blanc. Vous n'oublierez pas de donner le sucre quand il y aura un yaourt nature. Il y en a une des deux qui répond, alors qu'elle mélange avec sa compote. voyez ?
Ah oui.
Et puis, quand c'est la bouillie, écoutez, c'est la bouillie qui colle à l'assiette et à la cuillère. Voilà, c'est inimaginable.
C'est un EHPAD qui n'est pas un EHPAD privé, Marianne.
Non, c'est voilà. Pas privé, voilà. Oui. Non.
Après, vous savez, rien ne vous empêche aussi, vous, de lui acheter ses gâteaux préférés, ses boissons préférées, le sucre dans sa chambre. Voilà. Ça, elle peut utiliser tout ce qu'elle veut. Là où, par contre, c'est compliqué, et j'en sais quelque chose, puisque ma maman est en EHPAD, ce sont les compléments alimentaires. Ça, il faut vraiment, même pour des compléments alimentaires, même pour de la vitamine C ou de la vitamine D, il faut avoir l'accord du médecin. Ça, c'est un enfer. Parce qu'il se couvre pour les interactions médicamenteuses. Mais au moins pour les gâteries, parce que c'est ce qui reste quand même aux personnes âgées qui ont envie un petit peu de se lâcher parfois, les familles doivent faire le nécessaire.
Oui, parce que bon, je lui donne du miel, j'amène des chocolats, forcément, tous des trucs comme ça, mais enfin, quelque part, on paye quand même 2 500 €. Et les couches, c'est pareil, je suis arrivée plusieurs fois à 17h, parce que j'arrive toujours vers 17h, 17h30, quelquefois, ça m'arrive, j'arrive exprès un petit peu plus tard pour voir ce qu'ils ont mis à son repas, vous savez, c'est bon. Eh bien, elle était sur le siège, ça avait bien traversé le siège, vraiment une mare de tout ça. Je préviens l'infirmière, je lui dis comme ça, vous pourrez venir changer ma maman, elle a traversé. Oui, on arrive. Eh bien, ma maman, elle était changée à 20h passées. Ça arrive très, 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 très souvent, ça. Voilà.
Oui. Ils sont en sous-effectif, comme dans beaucoup d'EHPAD, avec un gros turnover.
Il y a 2 personnes, en fin de compte, le soir, ils sont à 2 plus l'infirmière, et bien, pour 31 personnes. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, avec certaines personnes, même quand ils ne sont pas 2, il y a quand même le sourire. C'est incroyable, il y en a une gentillesse. Mais écoutez, on ne peut pas dire, mais il y en a, on se demande ce qu'ils font là. Et aussi, je vais vous raconter encore 2 petits trucs au niveau de. Comment. La maltraitance. Ma maman, elle a eu plusieurs fois des infections urinaires. Mes frères et sœurs ont vu la
vidéo.
Voilà. Et aussi, je vais vous raconter vraiment, là, c'est vraiment catastrophique. Et puis, ma maman, elle a eu pendant 4 jours une infection urinaire. Donc, elle a eu pendant 4 jours, un ovule. Donc, premier jour, c'est bien passé. Deuxième jour, c'est bien passé. La troisième jour, forcément, puisque moi, je reste toujours dans le couloir. Vous savez, quand ils rechangent ma maman, puis une fois qu'ils sont terminés de rechanger ma maman, je rentre dans la chambre et après, je m'en vais. Je vois comment c'est calé. Vous avez la tête de ma maman. Donc, oui, je suis au troisième jour. Donc, le troisième jour de l'ovule, il y a 2 aides-soignantes qui rentrent. J'entends qu'il y en a une qui dit « Levez vos jambes !» Tout en sachant que ma maman, maintenant, elle est un peu sourde parce qu'elle a pas ses appareils à ses lunettes. Puis elle n'arrive plus à lever ses jambes comme avant, forcément.
91 ans, c'est normal.
Oui. Donc, au bout d'un moment, certainement, ma maman, elle n'a pas arrivé à lever ses jambes. J'entends ma maman qui crie, mais très, très fort. Forcément, je ne dis rien. J'étais prête à rentrer dans la chambre. Mais je dis, je vais quand même rester dans le couloir. Mettre ma tête à la porte comme je fais souvent, forcément. Au bout d'un moment, les 2 aides-soignantes qui sortent, je dis comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma maman? Je l'ai entendu crier. Il y en a une qui me répond, « Oh, votre maman, elle est tenace, hein, c'est desserré, c'est fesses. » Je lui dis comme ça, mais je dis, je voudrais bien vous y voir, vous, que je dis. Je dis déjà, nous, quand on doit mettre un ovule, je dis, on n'a plus de lubrifiant. Enfin, on sait ce que je fais comme ça. Je dis, mais il y a bien une autre manière de mettre l'ovule. Alors, elle dit, on a toujours fait comme ça. Donc, comme c'était 4 jours, le lendemain, je demande à l'infirmière je lui raconte tout ce qui se passe. L'infirmière, elle me dit, écoutez, moi, quand je mets l'ovule, je mets la personne sur le côté, ou quelquefois, on peut mettre un petit peu d'eau, ou vous savez,
une crème, oui, bien sûr.
Voilà. Et ça, je l'ai raconté à la table de santé dans une lettre, ainsi qu'à ma sœur. J'ai pas eu de réaction. Et j'en ai parlé à un médecin que je connais bien, toute cette histoire-là, parce que il faut que je parle à quelqu'un, donc je parle à un médecin que je connais bien. Et bien, le médecin me dit comme ça, la table de santé, elle vous a même pas répondu à votre lettre quand vous avez dit ce qui s'était passé pour l'ovule. Non, rien du tout.
Oui. Vous devriez peut-être vous rapprocher d'autres familles de résidents et de résidentes, hein, peut-être, hein, parce que peut-être que dans cette EHPAD, alors évidemment, ils ne sont pas tous comme ça. Moi, je rends hommage d'ailleurs au personnel de celui qui, du personnel de celui qui s'occupe de ma mère, hein, où ils sont vraiment très très bien. Bien sûr, il faut être vigilant. Hein. Les familles vigilantes sont toujours beaucoup plus entendues et surtout servent aux autres. Surtout, je pense aux unités fermées d'Alzheimer qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais peut-être que vous devriez vous rapprocher d'autres familles de résidents et de résidentes, Marianne, pour voir comment ça se passe.
Justement, j'en ai parlé vaguement, mais tout en sachant, je leur ai surtout pas dit ce que j'avais fait, vous savez, de mon côté. Et quelquefois, je parle comme ça à des personnes, je dis, oh là, la propreté, où c'est sale, où le verre il n'est pas changé. Un peu, il y a une personne qui me dit, oh ben oui, mais moi, quand je vois que c'est sale, je prends une lingette et je nettoie, je fais ceci. Alors, quand vous entendez avec des personnes qui font ça, vous savez, je préfère pas, vous savez, ébruiter quand même.
Oui, parce qu'on ne sait pas comment ils peuvent... Vous avez peur des représailles.
Oui. Et ce que j'avais fait aussi, j'avais été voir le député, d'EHPAD. Oui, et puis j'avais été à la permanence, mais tout au début, ils m'ont quand même reçu trois fois, hein, pas le député, bien entendu, la permanence. Et soi-disant, ils auraient téléphoné là-bas à l'EHPAD, puis soi-disant, tout se passait bien, ma maman, elle était heureuse, ceci, cela, voilà.
Mais oui, après, il faut faire attention parce que les personnes âgées, souvent, n'ont pas envie de froisser, n'ont pas envie de déranger. Donc, minimise aussi ce qu'elles vivent. Hein.
Oui. Mais moi, les filles, vous savez, j'y suis tous les jours, donc je vois quand même. Puis je vois très bien que là, ça fait un petit moment avec ma maman, vous savez, quand elle ne veut plus manger, elle reste comme... je ne sais pas comment vous dire ça, mais inerte, vous savez, elle me regarde avec sa bouche ouverte et puis c'est tout, vous voyez.
Ah oui, donc on voit qu'elle n'est pas du tout stimulée, on voit qu'elle n'est plus heureuse du tout. Quand vous alertez vos frères et vos sœurs et que vous montrez par exemple les vidéos, les courriers, etc., comment ils réagissent? Parce que vous pourriez la sortir, votre maman, de temps en temps, pour l'emmener chez vous.
Écoutez, attendez, quand elle est rentrée au mois d'août, eh bien, j'avais demandé à l'avoir une paire de jours à Noël, parce que comme ma fille, elle est dans le médical, donc j'avais fait quand même une lettre... Non, je n'avais pas fait une lettre, je l'avais fait oralement, et bien ça m'a été refusé. Voilà.
Et au nom de quoi?
Donc, refusé d'avoir ma maman quelques jours. Voilà.
Mais au nom de quoi il vous refuse la présence de votre maman quelques jours?
Allez comprendre, je ne sais pas pourquoi.
Elle n'est pas sous curatelle, elle n'est pas sous tutelle.
À ce moment-là, quand ma maman est rentrée au mois d'août, elle n'était pas sous tutelle. C'était ma première sœur qui s'occupait des comptes, voilà. Et puis, on l'a mis sous tutelle le 23 décembre, c'était ma sœur qui s'était mise, voilà. Et moi, j'avais signé, parce que sur moi-même... J'ai signé pour que ma sœur, qu'elle soit aussi sous tutelle, forcément. Et j'avais été voir aussi un défenseur des droits. J'avais expliqué tout ça. Il m'avait dit comme ça, il faut faire une lettre au juge. J'avais fait une lettre au juge en expliquant tout ce qui se passait. J'ai passé du coup au juge. Et automatiquement, je me suis rétractée parce que j'ai quand même une pression... de mon dernier petit frère, voilà. Donc, il m'a fait la pression, mais j'ai quand même pas eu peur de lui, vous savez, mais il m'a fait quand même une pression, donc voilà. Et quand j'ai passé au juge, il y avait seulement que les sœurs qui sont venues, les trois sœurs, les frères, ils ne sont pas venus. Bon, il y en a un, je peux comprendre, parce qu'il travaille encore. Eh bien, je fais comme ça à la juge, donc j'explique tout ça, ce qui se passe. Je dis, je vous ai fait une lettre en vous disant que je m'étais rétractée pour que ce soit pas ma sœur qui soit tutrice. Et le supposé tuteur qui est mon frère, je lui ai expliqué que je n'étais pas au courant, forcément. Et puis elle me dit, je n'ai pas lu votre lettre, que la lettre, elle était dans le dossier. Il y avait la greffière à côté, donc elle s'adresse à la greffière. Alors la greffière, elle lui dit, oui, c'est dans le dossier. Alors le dossier fermé, elle me dit, c'est une affaire de famille. J'ai été voir aussi des juristes, j'ai été voir des avocats gratuits, et à chaque fois, on me disait, c'est une affaire de famille. Voilà, une affaire de
famille. Donc vous n'avez aucun recours, Marianne?
Non, non. Et une affaire de famille, mais en entendant ma maman subit mais de oui. ce qui se passe.
Et je comprends vieillit, pas. Et vieillit surtout beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait si elle était oui, chez voilà. un de ses enfants ou oui. aux côtés d'un de ses enfants.
Oui, parce qu'automatiquement, bon, ben moi j'ai été bon, à droite à gauche, il y avait une partie qui avait réuni bon, les frères et sœurs, mais il y en a une partie qui sont venues. Et elle avait expliqué que si je m'occupais de ma maman, elle s'occupait pour que j'ai, enfin, qu'il y ait une dame qui vienne m'aider matin, midi, soir, vous savez,
bah oui, oui, une aide à domicile.
Le change. Mm-hmm. Voilà, j'avais le droit à une infirmière, enfin, plus ou moins, et j'avais même le droit à une journée de repos, vous savez.
Oui, hein, en tant qu'aidante. Oui.
Oui. Et j'avais le droit aussi à un mois de vacances, vous voyez. Et puis, il y en a une qui n'est pas venue de sœur, puisqu'il y a, j'ai trois frères et trois sœurs. Il y en a un qui est parti en plein conversation, parce qu'il a eu marre, puisque la dame a expliqué qu'au bout d'un moment, je vais vous dire, comme vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire que votre maman, où elle est, c'est dans un mouroir. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai un frère qui est parti. Il y a une sœur venue, mais elle m'a fait vraiment bien une lettre. Elle me dit, je ne veux pas que ma sœur, elle est ma maman, que je m'occupe de ma maman parce que je suis végétarienne, parce que j'ai des animaux, parce que je suis trop vieille, parce que ceci, parce que cela. Je ne comprends pas. Quand j'y allais tous les 15 jours, ils ne se sont jamais occupés si j'avais des animaux, si j'étais végétarienne, parce que
C'est surtout voilà. que vous êtes disposée à prendre votre mère chez vous. Est-ce qu'ils vont à l'EHPAD, eux? Ils vont la visiter tous les combien pour voir son état?
Écoutez, je fais des remarques, donc je sais quand ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Il y a avec certaines personnes que je suis bien, des moments où je dis « Ah, ben ma maman, elle a eu de la visite aujourd'hui, elle n'a pas eu. » Donc, vous savez, je leur parle en, vous savez, « Ah, ben elle n'a pas eu ceci, cela. » Si je vous disais que à Noël, enfin la première année, on n'a pas voulu que j'aie ma maman quelques jours, que ma fille elle était là, qu'elle est dans le médical, donc elle aurait pu être
surveillée.
Mais malgré tout, à Noël, ma maman n'avait pas eu de visite. Nouvel An, fête des mères, pas de visite. L'anniversaire, pas de visite. Et cette année, c'est pareil. Voilà.
Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que la semaine dernière, on a eu un monsieur qui a témoigné exactement de la même chose que vous, avec sa problématique oui. de sortir sa maman de l'EHPAD alors qu'elle oui. pouvait rentrer chez elle et qu'il y avait toute l'intendance autour. Et vous, votre maman, c'est la même chose. Vous pourriez la prendre avec vous. Vous êtes disposé à le faire. Il y a tout le cadre de santé qui est mis en place. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas favoriser le fait que les personnes âgées soient maintenues à domicile quand elles le peuvent.
Voilà, mais oui, c'est... Oui, attendez, sur le repas, je n'ai pas fini. Vous savez, c'était pareil, on donne la soupe vraiment aux champignons avec... Et là, cette fois-ci, c'était un yaourt nature. Oh, alors je fais comme ça à la dame, je dis, écoutez, ma maman ne mangera pas ça, et je dis, parce que la soupe, elle ne le mange pas. C'était une soupe aux champignons. Elle me dit, ben, votre maman le mange quand vous n'êtes pas là. Ben, je dis, j'y suis tous les jours. Bon, passons. Je dis, est-ce que je peux quand même avoir un petit gâteau, puis mettons un yaourt au chocolat? Elle me dit, c'est pas marqué dans le repas. Dans
son régime.
Voilà.
Peut-être qu'elle a un régime pour la glycémie, non? Même pas?
Non, elle n'a pas. Ma maman, avant d'arriver en EHPAD, elle n'avait aucun médicament. Elle prenait un médicament car, je ne sais plus, c'était pour la. Vous savez, pour le sang. Voilà.
Mais pour fluidifier le sang.
Et quand elle est rentrée, oui. Voilà. Et là, voilà. Elle a médicaments pour la tension, médicaments pour ceci, médicaments pour le stress, médicaments pour ceci. Et elle empoisonne avec les médicaments. Excusez-moi de vous dire ça.
Après, le médecin que vous connaissez bien peut tout à fait lui rendre visite à l'EHPAD, hein?
Ah non, non, sachant... Parlons-en du médecin là-bas, enfin, parce que c'est encore une nouvelle qu'il y a, forcément. Donc, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec le médecin, parce que je voulais lui expliquer un petit peu comme ma maman elle avait eu une infection urinaire après la vue des terres. Donc, comme il y en a quelquefois des infirmières, ils savent que je viens tous les jours, j'arrive quand même à voir, vous savez, un petit... quelque chose. Puis quand j'ai un médicament, je demande à ma fille, puis ma fille, elle me dit, bon, ben, mes mères, elles prennent ça, mes mères, c'est ça, mes mères. Donc, j'arrive quand même à voir, vous savez, puis il y a quand même des infirmières qui sont sympas, vous savez, qui me comprennent. Et puis, donc, je prends quand même un rendez-vous avec le médecin parce que je voulais quand même expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Donc, je prends rendez-vous, mais avec bien du mal, parce que je voulais faire voir les photos que ma maman, oui, elle avait bleues, des ouvertures. On a l'impression qu'on lui a donné un coup de peau, je ne sais pas trop quoi. Là, dernièrement, elle avait quelque chose, enfin, à sa figure, et chez les photos, forcément, que je prends en photo. Et j'arrive, bon, bien gentil, bonjour, ben, elle m'a perçu dans le bureau, dans le couloir. Elle me dit, ben, qui c'est que vous êtes? Je dis, ben, je suis madame, un tel, ma maman, elle est là, forcément. Elle dit, ben, vous n'êtes pas la tutrice, je ne vous dirai rien. Ben, je dis, c'est moi qui viens tous les jours. Donc, elle savait bien que je venais pour les photos, parce que pour avoir un rendez-vous qu'on ne voulait pas me donner, j'ai sorti les photos et au secrétariat, je dis, écoutez, vous me donnez un rendez-vous parce que sinon les médias, ils font s'en charger.
C'est ce que j'allais vous suggérer.
Voilà.
Menacer de médiatiser l'affaire, ce que vous faites d'ailleurs ce soir sur l'antenne de Europe 1, vous allez voir tout de suite qu'ils vont vous traiter autrement, ils vont vous respecter davantage.
Voilà, donc je vais au rendez-vous du docteur, mais j'avais pris un dossier pour faire voir certaines photos, mais pas tous. Alors elle attendait que je lui dise pour les photos. Donc au bout d'un moment, elle dit, je vous dirai rien du tout, tatata. J'y vais voir les photos. Oh, ça me dit, vous n'avez pas le droit de faire des photos de votre maman. Je dis, bah, écoutez, il n'y a pas puis je ne les publie pas, en fin de compte, il n'y a pas son visage. Donc, on était au deuxième étage, dans le couloir. Elle me dit, bon, on va aller en bas où c'est que votre maman est allée. En moi-même, je dis, bon, on va parler d'un bureau, comme il y a un bureau. Donc, je m'amène dans le hall. Forcément, au premier étage, il y avait une infirmière, quelques aides-soignantes. Puis pourtant, j'étais au loin d'elle. Puis elle me dit, allez, madame, dites qu'on maltraite votre maman. Je lui dis, mais attention, avec certaines personnes, ça va très très bien que d'autres non. Donc, pendant un moment, l'infirmière, elle dit, on appelle la sécurité.
Ah, donc ils vous ont forcé à quitter l'EHPAD.
Enfin, pas quitter, mais attendez, on appelle la sécurité. Donc, j'attends deux fois. Le docteur, il dit, non, c'est pas la peine d'appeler la sécurité, j'attends. Et je dis, ben si, appelez la sécurité, il n'y a aucun problème. Appelez la sécurité. Au bout d'un moment, ben, je suis quand même partie, mais vous savez pas ce que j'ai fait en sortant de l'EHPAD. Eh bien, les photos que j'avais, je les ai fait voir à la sécurité. Et quand j'ai fait voir la sécurité, parce qu'il y a plusieurs messieurs, ils me disent comme ça, ben vous savez, on sait ce qui se passe ici à cette EHPAD-là. Et c'est une EHPAD dans une ville, on va dire, dans, je ne sais pas moi, en Haute-France, mettons à 150 km de Paris, parce que je ne peux pas dire quand même le nom de l'EHPAD. Voilà. Mais... Et ça, 150 km
Vous pouvez peut-être aller voir quand même les forces de l'ordre, hein, la police, pour demander si vous déposez une main courante, vous déposez une plainte. Est-ce que c'est un EHPAD indépendant ou est-ce qu'il dépend d'une grande maison?
Il dépend d'un hôpital, voilà.
Oui, mais si c'est un hôpital public, il n'y a pas grand-chose à faire non plus.
Donc, parce que moi, comme aussi que j'ai parlé avec le défenseur des droits, comme je dis, on ne peut pas attaquer l'EHPAD. Mais moi, je veux informer, vous savez, leur dire ce qui se passe dans les EHPAD.
Mais vous avez raison, Marianne, d'informer, parce que votre maman, elle a la chance que vous veniez tous les jours, donc vous voyez ce qui se passe. Elle a la chance de pouvoir s'exprimer et de pouvoir raconter et de pouvoir dire non ou de pouvoir se manifester quand on la maltraite un petit peu, comme ce que vous avez entendu derrière la porte. Mais tous ceux qui sont dans les unités Alzheimer, ils ne peuvent pas parler. Donc vous avez tout à fait raison, ne lâchez pas l'affaire, Marianne. Hein.
Oui, mais parce que j'ai quand même déposé, parce que quand j'ai été déposée, moi j'étais pour aller déposer plainte. Bon, ma fille, elle était là. on était sorti de du défenseur des droits, c'est pour ça que je peux pas dire exactement la ville et l'État.
Oui, parce que c'est sinon, mieux, c'est mieux. De toute façon, pas, on va pas être voilà, attaqué pour diffamation.
Voilà.
Oui.
Non, non, voilà. Et puis, comment, donc, le défenseur des droits, c'est aussi, comment, c'est lui qui m'avait dit, comment, de porter plainte. Puis quand j'ai été à la police, ma fille, elle était là, eh bien, la police, il me dit, s'il faut, enfin, quand j'étais dans le bureau, ils me disent comme ça, vaut mieux déposer, faire un PV de renseignement, ça va directement au procureur, mais pas de nouvelles. J'ai renvoyé deux lettres au procureur. Et tout ça n'est pas aussi pour écrire à l'ARS. J'avais été à l'ordre des médecins. Où c'est que j'habite, forcément. Eh bien, c'est une grande ville. Hein. Je préfère vous dire sans dire le nom. J'avais été à l'ordre des médecins. J'avais expliqué un petit peu tout ça. Et c'est eux qui m'avaient dit d'écrire à l'ARS. J'ai écrit à l'ARS. J'ai été aussi au moins pendant au moins 6 fois, c'est tous les dates. J'ai téléphoné 6 fois au 3977, mais toujours rien. Voilà.
Ouais, ne lâchez pas en tous les cas, Marianne. Oui, je vois que vous êtes déterminée et vous faites bien, parce que vous faites pour votre maman, bien sûr, mais aussi pour toutes les autres personnes âgées.
Oui, oui. Et je voudrais, je ne sais pas vous dire, enfin, pas dire vous, parce que c'est vrai que je n'aurais pendant des heures et des heures à dire ça, puis peut-être l'heure qu'elle tourne. Mais vous ne savez pas qu'aussi, bon, je peux le dire à l'antenne, ce n'est pas méchant, vous savez qu'au début, j'avais écrit en lettre, je ne sais plus si c'est en lettre commentée ou en suivi, à Nouna. J'espérais avoir, je m'étais même déplacée, et puis à Pascal Praud, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Et puis là, on me dit, ben, ce serait bien que tu préviens Julien Courbet, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, qui peuvent me mettre en relation
alors
avec
Cyril. Alors, pas sur notre antenne, non, ça, on vous mettra pas. On vous mettra en relation avec Cyril Hanouna, si vous voulez, puisqu'on marche sur la tête, ou avec l'équipe de Pascal Praud. Et oui, hors antenne, on vous donnera les contacts des assistants de Pascal et de Cyril.
Oui, parce que je voudrais, vous savez, bon là, je peux pas dire les noms. Bon, j'ai dit les noms, mais je vous assure que si je passerai à la télé, je déballe tout parce que j'ai des photos, j'ai des vidéos, tout. Et je ferai à tête
En tout cas, vous pouvez déjà dire que vous êtes passé sur l'antenne d'Europe 1, que l'entretien est à réécouter sur europe1.fr. Et déjà, vous allez voir qu'on va vous considérer autrement.
Oui.
Déjà,
oui,
moi, le principal, c'est que vous soyez entendu par la direction de l'EHPAD.
Oui, non, mais eux, ils ne peuvent rien entendre. Hein. Ils ne peuvent rien entendre. Parce que quand j'ai revu aussi la
table... Oui, mais si vous médiatisez, Marianne, ils vont entendre. Croyez-moi qu'ils vont rectifier le tir. Ah. Alors, ils ne vont pas rectifier le tir pour tout le monde. Ça, c'est certain, parce qu'ils ont souvent un gros turnover. Ils ont souvent des problèmes d'effectifs. Mais vous savez vraiment, et je parle en connaissance de cause, les directions d'EHPAD, pour certaines d'entre elles, écoutent vraiment les familles des résidents et les résidents, et parfois mettent fin à des contrats. Hein.
Parce que vous savez, j'étais une très grande défenseuse des animaux, donc j'allais en ville avec des panneaux, tout ça. Vous ne savez pas ce que je voulais faire aussi pendant un moment, accrocher les photos de ma maman, puis me balader dans la ville, je vous assure que je voulais faire ça. Et vous ne savez pas pendant un moment ce que je voulais faire, kidnapper ma maman. Enfin, quand je vous dis kidnapper.
Oui, alors là, vous allez vous mettre en porte-à-faux avec la loi.
Oui, je le sais, c'est ce que le monsieur de la police qui était très sympa, puis le défenseur des droits ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit, le juriste, vous savez, il dit, on sait très bien que votre maman, qu'elle est malheureuse, mais si vous la kidnappez, enfin quand je dis kidnapper...
Oui, j'ai bien compris, bien, la sortir de l'EHPAD contre les accords, oui, bien sûr, que vous n'avez pas obtenu.
Ils m'ont même dit comme ça, vous pourrez peut-être même plus aller voir votre maman.
Et oui, c'est pour ça qu'il faudrait mieux passer par les voies officielles. Mais c'est pas normal du tout que vous puissiez pas la sortir une fois de temps en temps pour venir manger à la maison ou passer quelques jours à la maison si les aides à domicile sont là, si tout est mis en place. Hein. Ça, c'est pas du tout normal, Marianne.
C'est pour ça, si vous pouvez me mettre en relation avec Anouna, Pascal Praud, et si je pourrais faire une émission à tête.
Alors, Nicolas va vous donner les contacts des équipes de Pascal Praud et de Cyril Hanouna. Et Marianne, tenez bon, je vous embrasse, j'embrasse votre maman, et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, s'il vous plaît.
Encore un très, 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 très grand merci. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Avec plaisir, Marianne.
Merci.
Prenez soin de vous.
Au revoir. Oui, merci beaucoup, au revoir.
It Over, Till It's Over, Lenny Kravitz ce soir dans votre libre antenne sur Europe 1.
Vous aussi, venez vous confier à Valérie Darmon en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Et chers auditeurs, notez que chaque dimanche matin, de 11h à 12h30, Europe 1 met le patrimoine français à l'honneur dans Balade en France. William Lémergie vous fait découvrir toutes les régions de France, des sites les plus exceptionnels aux plus insolites. Et ce dimanche, William Lémergie vous fait découvrir une mine de sel à Varangéville en Meurthe-et-Moselle, la verrerie La Rochère à Passavant-la-Rochère en Haute-Saône, l'abbaye de Pontigny dans l'Yonne. Et il vous emmène à la 20e édition de la Nuit des Chimères au Mans. C'est un événement lumineux qui transforme les rues, les façades et les remparts gallo-romains du Vieux Mans en un immense décor de projection artistique, que ça doit être beau. Bonsoir Ben.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. De quoi voulez-vous nous parler? Que voulez-vous nous confier, Ben?
Ce que j'avais dit à Nicolas il y a 2-3 jours.
Oui.
Il y a 10 ans, je suis séparé, j'ai 2 filles, mais j'étais dans concubinage.
Oui.
Alors, on s'est séparé parce que je travaillais trop, je suis animateur et éducateur sportif.
Oui.
Et à midi, on s'est séparé, en plus, c'est beau. En fait, quand elle s'est mise avec un copain à moi, enfin, pas parce que j'étais jamais là, j'ai tout travail, j'habite dans la Drôme.
Ah, vous habitez dans la Drôme, d'accord. Et oui, vos filles avaient quel âge quand vous vous êtes séparée de votre concubine?
4 ans et 7 ans.
D'accord. Elles étaient
toutes petites. Et maintenant, j'ai 56 ans. Mais quand je voulais voir mes filles au tribunal, j'avais aucun droit.
Comment ça, vous n'aviez aucun droit?
Alors, il y a des auditeurs et des auditrices qui m'entendent.
Oui.
Parce que quand vous êtes en concubinage... C'est de la folie, j'ai aucun droit sur mes enfants. J'ai pris un avocat.
Oui.
Je suis allé voir le juge et tout. Il m'a dit vous aurez dû vous paxer. J'ai dit oui, pourquoi? Mais il m'a dit pas parce que vous êtes en concubinage. Tous les droits vont à leur maman.
Ah bon? Quand on n'est pas paxé ou quand on n'est évidemment pas marié, on n'a aucun droit sur ses enfants.
Voilà, on est en concubinage.
Oui, bien sûr, mais comment ça, vous n'avez pas le droit sur les enfants? Mais les enfants, vous les avez reconnus?
Ben non, je n'ai pas
reconnus. Ah, vous ne les avez pas reconnus lorsqu'elles sont nées, vos filles?
Voilà, je n'ai pas reconnus parce que...
C'est pourquoi vous n'avez pas eu de droit. Oui, non, mais il y a deux choses, Ben. Il y a la reconnaissance des enfants lorsqu'ils viennent au monde. Ben, vous allez à la mairie de votre ville et puis vous reconnaissez évidemment vos enfants, vous les déclarez à l'état civil. Là, vous êtes donc le papa, hein, donc il y a le papa et la maman. Et oui. Par contre, si vous n'allez pas faire cette démarche de reconnaissance de vos enfants, effectivement, vos filles ne sont reconnues que par la maman.
Eh ben, je ne l'ai pas fait. J'y ai pas pensé, je travaillais sur animateur et éducateur sportif.
Oui.
Je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Parce que j'ai dit, bon, c'est mes filles. Je pensais tout toujours être avec elles. Et c'est vrai que quand j'ai pris l'avocat, ce que vous me dites.
Il vous l'a dit. Oui, vous n'avez pas de droit sur les.
Je ne sais pas si je peux vous tutoyer, Laurence ou Madame Laurence.
Non, là, moi, c'est Valérie déjà.
Pardon.
Si vous voulez me tutoyer, tutoyez-moi. Moi, je vais vous voyer en tous les cas, Ben, parce qu'on ne se connaît pas.
Oui, non, mais c'est pardon, je vais vous voyer. Non, pardon.
Non, faites comme vous sentez. Vous savez, sur Europe 1, on est libre. Donc, si vous avez envie de me tutoyer, vous me tutoyez. Moi, de mon côté, je vais vous voyer. Voilà.
Non, j'allais dire, tu avais raison, que l'avocat m'avait dit, c'est là où elle est ma faute. J'aurais dû le déclarer à la mairie.
Eh oui, parce que là, vous n'avez pas de droit sur les enfants, puisque vous n'êtes rien aux yeux de la loi.
Voilà,
vous êtes le géniteur. Le géniteur n'a pas de droit. Après, il n'est jamais trop tard pour faire une action en justice pour reconnaître vos enfants, hein.
Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire.
Oui.
Et c'est très long, quoi.
Mais vous vous êtes séparés, les filles avaient 4 et 7 ans, donc vous avez vécu avec elles jusque 4 et 7 ans.
Voilà, voilà, oui.
Et vous vous êtes séparés dans quelles conditions de leur maman ?
Ben, de conditions que je rentrais tard.
Non, mais je veux dire, est-ce que c'était une séparation qui a été très difficile ? Est-ce qu'elle était très en colère contre vous ? Est-ce qu'elle vous a fait payer le fait que vous n'étiez pas présent à la maison ?
Elle m'a fait payer que je n'étais pas trop présent à la maison, que je travaillais trop parce que je suis animateur et éducateur sportif, oui. Que je devais bouger, je faisais beaucoup de randonnées. Et vous savez, des fois, je m'occupe des enfants qui sortent de la DAS,
oui.
De l'ASE,
oui.
Maison d'accueil et tout ça, je m'occupais d'eux. Et des fois, on partait, on faisait de la grosbranche et on faisait des randonnées, mais qui duraient 3-4 jours.
Oui,
alors, ça... 3-4 jours, j'étais pas à la maison.
Oui, enfin, ça, c'est pas très, très grave. Hein. Vous ne serez pas le premier
à partir
3-4 jours, voilà, travailler.
Oui.
Mais pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'elle aurait pu, vous auriez pu agir tous les deux en bonne intelligence, si vous ne vous êtes pas déchirés, et elle aurait pu vous laisser voir les filles tout de même. Pourquoi elle n'a pas voulu ? Pourquoi elle n'a pas voulu que vous les voyiez ?
C'est quand elle s'est séparée, parce que je n'étais pas là. Et elle m'a reproché que j'avais une double vie. Et je lui dis alors que non, que je partais au boulot. Elle me dit, mais qu'est-ce que j'en sais que c'était pas avec une fille? Je lui dis, appelle la mairie, appelle ma patronne, que je suis parti vraiment en randonnée. J'ai fait de la grosbranche pendant une semaine.
Oui.
C'est ça qui l'a fâché, quoi.
Et quand vous avez contacté votre avocat juste après la séparation, pourquoi vous n'avez pas enclenché la reconnaissance de vos enfants à ce moment-là, Ben ?
Ben, c'est là ma pote, c'est l'avocat qui me l'a dit après. Et après, ma fille, elle a grandi, elle avait 13 ans, parce que je suis séparé depuis 10 ans. J'ai 56 ans. Quand je me suis séparé, j'avais 45 ans. 40 et quelques.
Oui. Donc vous avez eu le temps de faire la démarche ?
Ben, entre mon boulot, que je suis parti une semaine, j'ai fait la grosbranche.
Oui, mais la semaine d'acrobranche, c'était pas pendant 10 ans.
Je travaillais, mais quand après, quand c'est vraiment, je pensais qu'elle s'avait énervée, c'est une séparation qui va durer une semaine. Mais quand j'ai vu qu'elle était sérieuse, vraiment, elle ne voulait plus de moi, ça a duré 5-6 mois. Moi, je ne l'ai pas vue, j'étais tout le temps au travail. En plus, elle s'est mise avec un
ami à
copain,
vous.
Moi. Mmh. Voilà. Et elle ne voulait pas que je voie les enfants. Moi, je voyais ma fille à l'école.
Ah oui, vous alliez à la sortie de l'école et vous attendiez vos filles.
Voilà.
Et là, vous arriviez à les voir quelques heures ?
Oui, quelques heures. Et elle m'a dit, mais je sais que c'est comme mon papa, parce que qu'elle avait son anniversaire, je lui ai acheté un vélo. Elle m'a dit, le copain, ma maman, il me fait fermer des voies de force et tout. Et je l'ai chopé, le mec. Et bien, le mec, il est parti au... porter plainte au commissariat pour menace de mort, alors que ce n'était pas vrai.
Oui. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec vos filles, Ben ?
Très bien.
Très bien, c'est ça qui compte. Il y en a, l'aînée, de toute façon, aujourd'hui, elle a 17 ans.
Voilà, oui.
Oui, donc elle est bientôt majeure, de toute façon. Donc si elle a envie de voir son père, elle peut voir son père.
Voilà, oui, elle a mon numéro, elle m'appelle...
Oui. Donc finalement, vous êtes proche de vos filles aujourd'hui.
Oui, je suis très proche. Mais moi, que l'avocat m'a dit, ce qui m'a étonné, comme vous m'avez dit, à la naissance, j'aurais dû le signaler.
Les reconnaître, vous auriez dû les reconnaître.
Voilà.
Sinon, vous n'êtes qu'un géniteur.
aux yeux de la loi, je suis qu'un géniteur.
Voilà, aux yeux de la loi.
Mais aux yeux de la loi, j'ai aucun droit sur mes filles.
Aucun droit. Mais il n'est jamais trop tard pour établir la vérité, Ben. Il n'est jamais trop tard. La démarche, vous auriez pu la faire il y a quelques années aussi. Ça fait 10 ans.
Ben oui. Je ne l'ai pas fait. Je partais plus à mon boulot. Et puis, comme je m'entendais bien avec ma fille, je n'y pensais pas.
Mais là, vous auriez
et
eu
puis,
surtout...
Et puis, comme je m'entends bien avec elle et tout, j'ai plus besoin d'aller à les déclarer. Mélina me dit, c'est comme mon père. Enfin, ils savent, quoi, voilà. Quoi.
Bah, c'est pas t'es comme mon père, tu es mon père, surtout. Mais c'est surtout symbolique, la reconnaissance de vos filles. Je crois que c'est important d'aller au bout juridiquement. Parce que demain, elles se marient, elles vont faire des enfants, que vous ayez une vraie place de manière officielle dans leur vie, même si bien sûr on est une famille de cœur aussi, parfois on peut choisir des parents de substitution.
Que je les reconnaisse.
Oui, mais là on ne demande pas son avis, hein. Votre fille aînée, elle va avoir 18 ans l'année prochaine.
Vous m'avez sorti de la bouche. J'attendais ça.
Moi, je crois que c'est important d'aller au bout de la démarche, Ben, hein, tout de même.
Oui.
Pour vos enfants, c'est important. Pour vous, c'est important. Pour le noyau familial, c'est important. Vous êtes comporté un peu comme un père, tout de même, tout au long de ces années. Vous ne les avez jamais perdues de vue, vos filles?
Non, jamais. Ah non, j'ai tout fait. Ah non.
Donc, moi, je serai vous, je ferai la démarche aujourd'hui.
Ben, moi, j'attendais donnez-moi un conseil, parce que moi, j'attendais qu'elle soit majeure.
Oui, ben, c'est l'année prochaine, donc c'est dans quelques mois qu'elle est majeure, l'aînée. Mais renseignez-vous déjà sur les démarches à faire, tout de même, Ben. Comme ça, vous savez déjà ce qu'il faut faire une fois que l'aînée sera majeure, voire même la cadette, hein.
Oui.
Renseignez-vous juridiquement sur les démarches à faire. Ne perdez pas de temps.
Ben, c'est ce que je vais faire.
Voilà. Même si l'essentiel, ça a été que vous ne perdiez pas de vue vos filles et que vous continuiez de vous comporter comme un père. Après, c'est vrai que là, par exemple, bah, vous n'avez pas eu l'autorité parentale conjointe. Ça, c'est dommage, parce que normalement, le papa aussi prend des décisions pour ses enfants.
Oui.
Et là, vous n'avez pas le voix au chapitre.
Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez connu ces cas-là, vous?
Moi, je ne connais pas ce cas-là. On peut interroger la communauté de la Libre Antenne, évidemment. Si quelqu'un connaît un cas similaire au vôtre ou a des informations à nous donner, bien sûr, vous concernant.
Oui, aux auditrices qui sont sur le même cas que moi, qui sont au petit village, qui ont eu des enfants, et ils n'ont pas pensé à les déclarer.
Oui, moi je trouve ça un peu bizarre que vous n'y ayez pas pensé à les déclarer. Je suis pas la seule, parce qu'on a des auditeurs qui l'écrivent au 739-21 aussi. Et d'ailleurs, ce même auditeur ou cette même auditrice qui ne signe pas son message demande si vous avez payé une pension alimentaire, ou en tout cas une pension pour vos filles, pas alimentaire, mais une pension pour vos filles à la maman.
Oui. Non, elle m'a demandé, j'ai refusé.
Donc vous n'avez pas participé financièrement à l'éducation de vos filles?
Ben si, je leur ai acheté un vélo, je les aide.
Oui.
Mais elle, quand ma vie, on ne sait pas, parce que tu travailles trop, et puis elle s'est mise avec un copain à moi, je lui ai dit, mais comment je fais avec la petite? Elle m'a dit, mais tu ne les vois pas, de toute façon, c'est moi qui ai l'autorité parentale. Voilà ce qu'elle m'a dit.
Oui, après, bon, renseignez-vous sur comment procéder à la déclaration pour de reconnaissance de vos filles. Après, c'est vrai que vous me dites, j'ai participé vaguement, hein, parce qu'un vélo en 10 ans, c'est pas participer à l'éducation des enfants, même si vous n'aviez pas l'autorité parentale. Vous pouviez tout de même d'abord faire les démarches avant, hein, de reconnaissance, plutôt que maintenant. Surtout que votre avocat vous l'avait dit. Et puis, s'occuper d'un enfant...
Non, quand je vous dis un vélo, c'est un exemple, mais je participe à l'éducation de mes enfants.
D'accord.
Surtout mes filles.
Oui, bah oui, surtout vos filles. Vous n'avez pas d'autres enfants, de toute façon, Ben ?
Oui, Valérie, dans les actualités, quand j'entends les gars de 14 ans et des coups de couteau et tout, enfin, je fais attention à mes filles, quoi.
Oui, bah vous avez raison.
Mais même à l'école, une fois, il y avait 4 mecs qui ont regardé ma fiche, je voulais voir les 4 mecs. Il avait 14, 16 ans. Il fumait le joint. Mm-hmm. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as à regarder ma fille? Qu'est-ce que tu avais à regarder ma fille? Tu vois?
Oui.
Il m'a dit, non, mais laisse tomber, papa. T'inquiète pas, ils me font pas chier. Mm. Tu vois? Il me dit, oh, t'inquiète pas, ta fille, on ne lui fait rien. Je lui dis, mais ne fixez plus ma fille. Enfin, je fais attention à ma fille, quoi.
Oui. Alors, il y a faire attention, il y a garder le contact, et puis ensuite participer à l'éducation, participer aux études, participer aux activités parascolaires. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je vous incite à une chose, Ben, et je ne suis pas la seule, parce que les auditeurs réagissent également dans ce sens au 739-21. Renseignez-vous sur la procédure de déclaration. D'ailleurs, il y a une question qui est posée très rapidement. Pourquoi l'hôpital ne vous a pas dit comment procéder à la déclaration, à l'accouchement? Vous avez assisté à l'accouchement de votre femme, de votre...
Eh bien, ils ne m'ont rien dit.
Vous étiez là à l'accouchement, Ben?
Ben oui.
Oui.
Ben oui, ils m'ont rien dit. Vous savez que les hôpitaux, ils sont débordés.
Oui.
Et c'est de la folie.
Oui.
J'ai assisté à l'accouchement. Ils l'ont accouché. Après, il y avait plus personne, quoi.
Donc, d'accord.
Bref, ils sont débordés. Enfin.
Vous avez assisté aux deux accouchements. Aux deux accouchements,
voilà,
pour les
oui,
deux filles.
Oui,
d'accord.
Voilà, oui.
Bon, en tout cas, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Le principal, c'est le lien que vous avez avec vos enfants aujourd'hui. Et renseignez-vous sur ces démarches et puis allez au bout de la démarche, Ben, s'il vous plaît. Pour vous et pour vos enfants.
Voilà. Et je voulais vous demander, comme j'ai 56 ans...
Très rapidement, oui.
Très rapidement, voilà. J'aimerais bien faire des connaissances si je peux.
Alors, vous êtes dans quelle région? Vous êtes dans quelle région, Ben?
À Valence, dans la Drôme.
À Valence, dans la Drôme, si quelqu'un, en tout cas une femme, a envie de rencontrer Ben, qui vit à Valence, dans la Drôme, qu'elle n'hésite pas à nous laisser ses coordonnées, bien sûr, on vous les donnera.
Voilà.
Prenez bien soin de vous.